explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainé, tu connais ?
Vous avez croyé que je vais plus regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Que serait Londres sans la Tamise, Rome sans le Tibre ou Paris sans la Seine? La civilisation égyptienne aurait-elle prospéré pendant des millénaires s'il n'y avait pas eu le Nil? Bien des fleuves ont accueilli et enrichi les communautés humaines qui s'y sont établies durablement. Ils constituent de véritables gisements de ressources, eau douce, poissons. Certains charrient même de l'or dans leurs sédiments. Reste à savoir si nous prenons suffisamment soin de ces grands cours d'eau providentiels. Aujourd'hui, du Nil au Mékong, en passant par le Mississippi et l'Amazone, nous partons bivouaquer le long des grands fleuves du monde.
J'aimerais connaître la vraie version des choses, les événements, les histoires.
Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter.
Des aventures, plein la musette.
Du coup, c'est pas bien par quoi commencer.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Magali Reguezza.
Bonjour.
Vous êtes géographe et maître de conférences à l'École Normale Supérieure et vous signez dans le dernier numéro de la revue Relief consacrée au fleuve un article passionnant intitulé « Vivre avec le fleuve ». Nous sommes ravis de vous avoir pour guide pour ce voyage dans l'espace et dans le temps au fil des grands cours d'eau qui irriguent la planète. À 17h, nous reviendrons sur le périple de 4 ans qu'Alexandre Poussin et sa famille ont effectué à Madagascar, en charrette à Zébu. Nous avons pris de leurs nouvelles chaque été par téléphone dans l'émission. Ils sont enfin rentrés et ils vont nous raconter leur aventure. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Juliette Soudarin.
Le Nil, ça représente la vie en Égypte. Ça veut dire sans le Nil, il n'y a pas de vie. La preuve que les deux côtés du Nil, à droite et à gauche, on voit des verdures, on voit des végétations. Mmh. Mais juste après ces parties vertes là, on a toujours le désert. Et même à l'époque des anciens Égyptiens, c'est toujours le Nil, ça représente la vie. Ça représente le dieu Hapi qui était très important à l'époque des anciens Égyptiens.
Et nous commençons notre voyage sur les bords du Nil, ce fleuve qui traverse le désert et y apporte la vie. C'est un fleuve chargé d'histoire, évidemment. Il appartient à ces fleuves berceaux de civilisation, Magali Reguezza.
Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs fleuves hein, comme ça qui sont identifiés. Les plus connus, c'est la Mésopotamie, hein, la terre entre les deux fleuves, Potamos, ça a donné Hippopotame aussi. Donc, c'est le Tigre et l'Euphrate. En fait, on a donc dans tous les manuels d'histoire, on trouve ces fleuves berceaux de civilisation. Alors il faut savoir que les fleuves en fait fixent souvent l'habitat humain. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une ressource en eau qui est vitale. Et donc même dans les peuplements itinérants, on a régulièrement des arrêts où on va camper auprès du fleuve pour avoir l'eau, les poissons, la ressource.
C'est-à-dire que soit on longe le fleuve, soit on y revient régulièrement comme un fil conducteur.
Exactement. Et puis avec la sédentarisation, on va effectivement s'implanter à côté du fleuve. Alors au départ, on peut imaginer que ces implantations, elles sont soumises aussi aux caprices du fleuve. Et puis peu à peu, les sociétés vont inventer des façons d'habiter auprès de ces fleuves. Par exemple, avec des villages sur pilotis, on a des traces très anciennes de ces habitats. Mmh. On a aussi, ensuite, on va s'installer sur ce qu'on appelle les terrasses alluviales du fleuve, c'est-à-dire des bourrelets, en gros, des surélévations où on va se mettre. Et donc, comme ça, la civilisation va pouvoir se développer grâce à cette ressource qu'est l'eau, et puis grâce aussi à la ressource que représente le fleuve pour la pénétration du territoire. Parce que quand vous avez un fleuve, on peut naviguer dessus, on peut surtout suivre en fait le fil d'Ariane que représente le fleuve pour aller explorer les terres à l'intérieur. Oui.
Ce sont des moyens d'explorer les terres à peu de frais, encore qu'il faut s'y aventurer. Par exemple, on pense à l'Amazone qui pénètre cette terre, cette forêt impénétrable. Mais alors, les fleuves dans cette région-là sont particulièrement tumultueux, avec des cascades régulièrement.
Ah oui, c'est extrêmement dangereux. En fonction des fleuves, en fait, on va avoir effectivement des difficultés plus ou moins grandes pour pénétrer. Ce qui explique aussi que souvent, les sociétés humaines vont privilégier un certain nombre de lieux dans les fleuves. Par exemple, les sites d'embouchure, là où le fleuve se jette dans la mer, parce que ça permet d'avoir un contact avec la mer. On va aussi privilégier certaines formes de méandres, où on va se mettre là pour avoir aussi une visibilité sur l'amont et sur l'aval. Il faut aussi savoir que ces fleuves, ils permettent à l'ennemi de nous attaquer.
Oui. Ce sont des points faibles, alors.
Exactement, c'est aussi des points faibles, et donc on va avoir aussi des stratégies défensives le long de ces fleuves. Et donc on va voir peu à peu les sociétés s'organiser par rapport au milieu et au fleuve, par rapport aux ressources qu'elles cherchent à exploiter et par rapport aux risques dont elles cherchent à se prémunir.
Et parce qu'ils apportent, parce qu'effectivement, vous parliez de la Mésopotamie, c'est l'agriculture, c'est avant tout parce que on se met à cultiver, que l'on a besoin d'eau, que l'on a besoin de terres fertiles, et c'est ce qui pousse les hommes à se sédentariser près des fleuves.
Alors le fleuve a deux apports principaux pour l'agriculture. Le premier, c'est l'eau, donc qui peut permettre de l'irrigation. Il apporte aussi des limons très fertiles. Et évidemment, le cas du Nil est très emblématique puisque les Égyptiens vont dompter la crue du Nil pour récupérer les limons fertiles, pour fertiliser ces terres et pour récupérer l'eau. Alors évidemment, ça va dépendre après à chaque fois du régime du fleuve, c'est-à-dire à quel moment le fleuve va être en période de pleine eau, à quel moment le fleuve va parfois être à sec, ça existe aussi. Et donc on va voir en fait là aussi les sociétés s'organiser dans le temps de l'année. Et chez les Égyptiens, le rythme, en fait, les Égyptiens vivent au rythme de la crue du fleuve. Et ça, donc c'est, on va voir la même chose dans la Mésopotamie, hein, où vraiment, alors en plus ce fleuve, on peut récupérer l'eau pour ensuite irriguer les villes, c'est-à-dire faire pénétrer l'eau dans la ville. Et donc, vous avez aussi des fleuves qui vont permettre d'avoir, avec des systèmes de canaux, d'apporter de l'eau pour cultiver les jardins. Donc, on a vraiment des rapports très intenses aux fleuves qui définissent les civilisations et qui définissent, en fait, des sociétés. Et juste pour vous donner une idée, c'est que souvent, ces fleuves, ils sont divinisés. Quand les archéologues, ils vont trouver, dans toutes les sociétés, on va jeter, par exemple, des offrandes votives dans le fleuve, c'est Kwana, hein, la déesse qu'on connaît, la déesse du fleuve de la Seine aujourd'hui. Donc souvent, il y a cette espèce de divinisation qui peut aller jusqu'à la ritualisation. On connaît tous le Gange et ses bains rituels. Donc en fait, on va avoir aussi une sacralisation parce que le fleuve, finalement, est consubstantiel de la civilisation qu'il permet.
Bien sûr, il rythme, hein, vous l'avez dit, il rythme la vie des habitants qui se trouvent autour, comme ici au bord du Mékong, où cet homme, Pi, n'a que quelques semaines pour s'occuper de son jardin.
Moi, selon les saisons, je suis soit pêcheur, soit paysan. Quand l'eau est basse, comme on a soudain un bout de terrain, on en profite pour cultiver les légumes. Ça nous permet de subvenir à nos besoins. En période de crue, tout est inondé. Ici, il n'y a plus de terre. C'est maintenant ou jamais qu'il faut cultiver. Moi, j'aimerais quand même un jour avoir une maison en dur et qu'il y ait l'électricité partout. Comme ça, ceux qui viennent d'ailleurs trouveront qu'on a de belles maisons. Parce qu'une maison flottante, ça va un moment.
Des maisons flottantes sur le Mékong, les hommes ont développé toutes sortes de stratégies pour pouvoir vivre au plus près de ces fleuves, même si c'est poétique et pas forcément confortable, hein, une maison flottante, hein, parce que ça s'arrime, ça se déplace avec difficulté, mais on est prêt à ce sacrifice pour pouvoir vivre près du fleuve.
Alors déjà, le sacrifice, oui, dans le cas de Pi, effectivement, il est important. Je vous rappelle quand même qu'on vit aujourd'hui sur des péniches et qu'avec le changement climatique, on nous parle aujourd'hui de villes flottantes. Mais au-delà de l'anecdote, c'est vrai qu'on se rend compte que chaque société a vraiment appris à vivre avec le fleuve. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner parce que aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, nous avons plutôt tendance à vivre contre les fleuves, à les voir comme des menaces et donc à les canaliser, à les chenaliser. Au contraire, de nombreuses sociétés, dont les sociétés paysannes, ont essayé en fait de s'adapter à ces variations du fleuve pour pouvoir les exploiter au maximum. Et le cas du Mékong est vraiment le cas archétypal, où on voit en fait comment ces paysans deviennent à un moment donné des pêcheurs, comment l'habitat est complètement adapté. Et on voit aussi que les évolutions récentes des 30-40 dernières années au Vietnam ont justement conduit à casser, du fait de l'industrialisation, du fait de l'urbanisation, du fait de l'endiguement, ce rapport quasi organique au fleuve, de sorte que les sociétés sont devenues paradoxalement plus vulnérables, alors même que la technologie qui a été développée aurait dû permettre de les protéger.
C'est-à-dire qu'on arrive à certains excès, parce que utiliser le fleuve dans tout ce qu'il a, ses ressources, mais aussi son énergie, on n'a pas attendu l'électricité pour produire de l'énergie bien grâce au fleuve. Dans l'Antiquité, déjà, des moulins à eau sur les fleuves d'Europe pour venir apporter de l'énergie aux paysans, pour moudre du grain, par exemple. Tout cela, on a su le faire avec modération. Aujourd'hui, on le fait avec excès, ou de tout temps, les hommes ont un peu perturbé le cours du fleuve avec leurs aménagements.
Alors, on a toujours perturbé le cours des fleuves. Simplement, effectivement, par le passé, on était sur des impacts qui étaient micro-localisés. Il faut bien comprendre que ces fleuves, il n'y a pas simplement de l'eau, des poissons, des batraciens. On a effectivement les sédiments qui coulent à l'intérieur, qu'on peut exploiter. On a aussi cette force énergétique qui est très importante. C'est aussi des espaces de navigation. Et si on reprend l'exemple de la vallée du Nil, on a ces dessins avec ces blocs de pierre qui sont transportés pour aller construire les grands édifices. Donc on voit comment le fleuve, à chaque fois, va être utilisé. La différence, c'est que jusqu'en gros à la révolution industrielle, on est vraiment sur des impacts très locaux. Avec la révolution industrielle, le développement des techniques fait qu'on est capable d'avoir des actions extrêmement importantes sur ces fleuves qui vont jusqu'à en modifier le cours et qui vont jusqu'à en modifier les écoulements. Quand vous construisez un barrage sur un fleuve, par exemple pour faire de l'hydroélectricité, vous allez complètement perturber le régime sédimentaire du fleuve, donc les alluvions, vous avez aussi perturbé les débits. Quand vous installez une centrale nucléaire sur un fleuve, vous allez changer la température, donc on va avoir des impacts systémiques majeurs.
À quel point nos activités pèsent sur ces fleuves? Nous allons nous intéresser à la question dans un instant. Nous bivouacons sur les rives des grands fleuves du monde avec la géographe Magali Reghezza cet après-midi. Pour nous adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Arizona blues no more, Arizona rest no more. We want freedom to cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass, never last Arizona blue. Bloody, bloody border, no more. Sagging Arizona rest.
Bloody Bloody Border, le retour de Manu Chao, on est ravis dans le Temps d'un Bivouac.
So you can see, we have the Tiens, regarde, on a des éléphants adultes, un plus jeune. Il y a des babouins, des antilopes, des impalas, et aussi deux éléphantaux qui se chamaillent comme deux adolescents qui testent leur force. Tout ce que l'on voit est un comportement naturel, car nous n'interférons pas sur leur comportement. Donc c'est une cachette formidable. Ils ne savent pas que nous sommes là.
Et est-ce qu'on peut dire que le Zambèze, pour tous ces animaux, c'est un peu le lieu de rendez-vous?
Tout à fait. Il faut bien se rendre compte qu'à l'intérieur des terres, il y a peu d'eau. Ils doivent tous descendre au fleuve pour boire, mais ils ne se battent pas pour l'eau. C'est toute la beauté de cet écosystème bien réglé.
Et nous voilà arrivés en Zambie, sur les rives du Zambèze. Les fleuves n'attirent pas seulement les humains, Magali Aregheza, ils sont aussi le point de ralliement de bien d'autres espèces.
La biodiversité des fleuves est extrêmement importante à l'intérieur des fleuves, mais aussi sur leurs rives. Alors, selon la taille des fleuves, selon l'endroit où on se trouve dans le monde, on va avoir des écosystèmes très particuliers. Un des cas les plus intéressants, justement, c'est l'Amazone, dont on a parlé tout à l'heure, parce que, en fait, chaque bras, chaque lieu, on va avoir des forêts différentes, une faune différente, une flore différente. Évidemment, ces espèces, elles sont alors ressources pour les sociétés, puisqu'on va les chasser, mais c'est aussi des espèces extrêmement fragiles. Alors après, on a des lieux, là aussi, ce sont des zones humides, en fait, ce qu'on appelle des zones humides, et donc vont se développer en bord de fleuve des espaces de marais, qui vont par exemple être des lieux très particuliers pour les oiseaux. Donc avec une avis, ce qu'on appelle l'avifaune, extrêmement importante. On a aussi tous les espaces de delta et d'estuaires.
Donc là, on est à l'embouchure du fleuve.
Exactement.
Et là, du point de vue de la biodiversité, ce sont des niches, des sortes de lieux à part où des espèces endémiques apparaissent.
Ce sont des lieux d'extrême biodiversité qui sont d'ailleurs aujourd'hui protégés. Quand, par exemple, en France, vous avez énormément de réserves, et c'est protégé par des directives européennes, par des conventions, la convention Ramsar, par exemple, sur les oiseaux. Donc, ce sont vraiment des sites très, très importants de la biodiversité. Il y a un endroit qui est très connu en France, c'est la Camargue, où on peut un petit peu aller faire comme dans le Zambèze. On a des abris, on peut aller observer les oiseaux, les animaux qui sont là. Vous avez d'autres endroits aussi qui sont... donc là, on a carrément des réserves intégrales. Alors évidemment, dans ces estuaires et dans ces embouchures, le problème, c'est la présence humaine, puisque souvent, vous avez des ports qui se sont installés avec une destruction de ces zones humides. Et donc aujourd'hui, ces zones humides, elles sont en danger et on cherche aussi à les protéger. Et vous en avez dans le monde entier. Alors, là, on a parlé des zones tempérées. Quand, par exemple, vous allez sur le Mississippi, ce grand fleuve du Mississippi, l'extraordinaire delta du Mississippi.
Ouais. Vous y êtes rendu?
Ah, c'est un endroit.
Décrivez-nous l'endroit, Magali Aregheza.
C'est un endroit extraordinaire. Vous arrivez donc dans ces espaces qu'on appelle les bayous, qui sont en fait ces zones marécageuses. Alors bon, malheureusement, aujourd'hui, vous y allez en tant que touriste. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est extrêmement perturbant pour la faune et la flore. C'est des gros bateaux à fond plat avec des hélices. On nourrit les alligators avec des chamallows. Donc c'est vraiment c'est très dérangeant en fait pour quelqu'un qui y va. Mais ce sont des espaces absolument incroyables où vous êtes à la rencontre entre la mer et le fleuve. Le Mississippi, il faut imaginer, c'est un fleuve extrêmement puissant, extrêmement large. Mmh. Quand vous vous mettez d'une rive, vous regardez à l'autre bout, vous dites, mon Dieu, mais c'est presque un lac. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... On est à la Nouvelle-Orléans en plus, la ville du jazz. Donc, et c'est un endroit qui est bercé là encore par une culture très particulière.
C'est ça. Il y a un vrai caractère que l'on donne au fleuve. Le Mississippi en fait partie. Il irrigue la littérature américaine et au-delà,
tout à fait, les bateaux à aube. Alors là aussi, aujourd'hui, cette culture est souvent mise en tourisme et souvent utilisée pour faire venir des touristes. Mais c'est vrai que derrière, quand vous voyez effectivement l'abondance de la littérature, alors ce que je trouve toujours fascinant, c'est que quand on est enfant, qu'on lit Tom Sawyer ou on s'imagine, puis un jour on arrive sur le Mississippi, et là on voit effectivement la puissance de ce fleuve. Alors il faut aussi imaginer que d'autres fleuves sont au contraire tout petits, les fleuves côtiers, les petits fleuves côtiers. Et puis, quand on parle de fleuves, on imagine ces grandes masses d'eau comme ça qui avancent avec un courant très fort. Il faut aussi penser, par exemple, à ces fleuves, c'est ce qu'on appelle les torrents, qu'on trouve beaucoup en Méditerranée, qui vont rejoindre la mer et qui, une partie de l'année, sont à sec. Mmh. Donc, on peut aussi avoir des fleuves sans eau.
C'est ça. C'est-à-dire que pour être un fleuve, la définition du fleuve, c'est qu'il se jette dans la mer, mais peu importe sa taille, peu importe son débit.
Exactement. Et là aussi, alors, les débits peuvent être très variables. C'est-à-dire que pour vous donner là encore une idée, quand vous êtes dans les Alpes-Maritimes, vous avez un fleuve qui s'appelle le Var, qui est un fleuve donc qui est à régime torrentiel. Ce fleuve en crue, il atteint le débit de la Seine. Évidemment, il n'a pas du tout la même taille, il n'a pas du tout la même forme. Et ce que je peux recommander aux auditeurs, c'est d'aller faire un tour sur Internet et d'aller regarder des photos, des images satellites de ces fleuves, de les voir d'en haut. Et de voir la diversité. Nous, on parle de chevelus, par exemple, où on voit en fait ses bras qui, ça forme des tresses.
Ouais. Alors, un exemple de fleuve chevelu.
Un exemple de fleuve chevelu. Bah, par exemple, quand vous allez encore sur la, rien que la Loire, par exemple, quand vous regardez la Loire.
C'est un fleuve chevelu, alors?
Alors, il est moins chevelu que par le passé, mais quand vous regardez, vous avez des, on voit très bien, les îles de sable, on voit très bien les bras qui s'entrelacent. Évidemment, moi, ce que je trouve le plus fascinant, c'est l'Amazone, parce que c'est le plus grand. Puis alors, l'Amazone, vous le voyez carrément se jeter dans l'océan. C'est-à-dire que vous voyez une immense tache marron vue du ciel. Il faut voir qu'on est dans l'espace et on voit l'énorme dépôt sédimentaire qui est en train de se prolonger. Mais vous avez d'autres fleuves, au contraire, qui sont parfaitement rectilignes. Parce qu'en fait, ils ont été chenalisés par les sociétés, avec des berges qui ont été empierrées, qui ont été, certains cours d'eau ont été retravaillés. Il faut aussi aller regarder, par exemple, les fleuves de Russie. L'hiver. L'hiver, c'est intéressant parce qu'ils sont englacés au niveau de l'embouchure et continuent à couler en amont. Donc, c'est en fait, mes étudiants disent qu'ils coulent à l'envers. En fait, ils coulent vers le nord. Et donc, effectivement, ils glacent. Et donc, du coup, vous allez avoir des inondations en amont de ces fleuves. Et donc, on voit ces nappes d'eau. Voilà. Il faut regarder les grands fleuves chinois, par exemple. Alors là aussi, ils ont été beaucoup retravaillés. Donc, on voit en fait à chaque fois ces chenaux, ces taches aussi de végétation. C'est fascinant.
Alors, en les retravaillant, parfois, surtout si on les retravaille en amont, on peut faire de sérieux dégâts au niveau de l'embouchure, au niveau du delta. C'est le cas, par exemple, du Colorado. Alors en plus, comme pour beaucoup de fleuves, il n'est pas sur le seul et même pays. Hein. Il débute aux États-Unis et son embouchure se trouve au Mexique. Et alors, les travaux qui sont faits aux États-Unis pour capter l'eau ont des sérieuses conséquences sur le débit du fleuve qui a énormément réduit au niveau de l'embouchure, avec des conséquences sur la biodiversité.
J'ai dans mes mains une grande quantité de coquillages morts. D'une espèce endémique du delta du Colorado. C'est difficile d'en trouver un spécimen vivant. Quand l'eau douce arrivait jusqu'ici, on trouvait cette palourde en abondance. Mais avec la rétention et le manque d'eau douce dans le delta, la salinité a changé. L'espèce a presque disparu. Elle est quasiment éteinte. Des millions de palourdes accumulées dans ces grands cimetières de coquillages, remplis d'histoire. L'histoire récente du fleuve Colorado est inscrite ici, dans ce cimetière de coquillages. C'est incroyable ce que l'homme est capable de faire en si peu de temps.
Alors les coquillages ne sont pas les seules espèces touchées dans ce delta du Colorado. D'autres espèces, comme des oiseaux et des mammifères marins, sont en voie d'extinction. Et ça pose la question, comment on gère un fleuve à plusieurs, hein. Là, on a les États-Unis qui se servent de l'eau du côté de la source, et puis du côté du Mexique, on constate les dégâts sans rien pouvoir faire. Cette situation, on la retrouve à beaucoup d'endroits dans le monde, Magali Reguezza.
Alors, on la retrouve à beaucoup d'endroits dans le monde. Elle est liée, effectivement, à des aménagements qui vont être réalisés tout au long du fleuve, en particulier les barrages qui servent aujourd'hui à l'irrigation, à l'alimentation en eau potable des villes, à l'hydroélectricité, bien sûr. Donc on a des points de tension. Alors on a ce premier problème, on a un deuxième problème qui est le rejet de polluants liés à l'industrie ou à l'agriculture. On a aussi la navigation qui peut perturber les fleuves. Là on parle des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui n'existent qu'à cet endroit-là. On a aussi aujourd'hui le développement d'espèces invasives, c'est-à-dire d'espèces qui sont apportées par des facteurs halogènes au territoire et qui vont envahir au sens propre et donc tuer les autres espèces. Et tout ça donc fait que la biodiversité est extrêmement menacée et qu'il faut effectivement pouvoir se mettre d'accord entre tous les usagers du fleuve. Alors ça se passe aussi bien à l'échelle locale, par exemple entre les agriculteurs, les touristes, les industriels, mais aussi entre départements, régions, etc. Aujourd'hui, on va chercher l'eau pour alimenter les grandes métropoles, parfois à plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire sur d'autres territoires. Et là encore, donc, il faut se mettre d'accord. Quand vous êtes dans un pays, ça se passe assez bien. Quand vous êtes entre États qui ont fait la paix depuis longtemps, et je pense par exemple au Rhin, qui a été pendant très longtemps victime de grosses pollutions liées à l'industrialisation, aujourd'hui le fait qu'on est en paix avec nos voisins fait qu'au contraire, ce fleuve est un lieu de coopération. Maintenant, vous avez aussi dans le monde de nombreux fleuves qui se coulent déjà dans des zones qui sont extrêmement tendues. Et là, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez une grande puissance, comme les États-Unis, comme par exemple la Turquie, comme par exemple l'Inde, qui vont imposer, en fait, aux autres acteurs, aux autres pays, aux autres puissances, leurs décisions. Soit vous allez avoir des conflits qui vont naître, ou en tout cas, ce partage des fleuves va alimenter les conflits. Et aujourd'hui, on a des cas très, très préoccupants. Je pense au Proche-Orient et au Moyen-Orient, notamment autour des projets de la Turquie sur l'Anatolie, autour du Jourdain. On a les grands fleuves indiens. On a le cas, alors, très particulier du Sirdaria et de l'Amoudaria, parce que derrière, en plus, en bout de ces fleuves, vous avez le cas de la mer d'Aral qui est en train de s'assécher. En Afrique également. En Afrique, on a des grosses difficultés sur un certain nombre de fleuves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la gestion du fleuve, c'est un baromètre de la géopolitique. C'est-à-dire que vous allez voir, quand on s'entend autour du fleuve, c'est qu'à un moment donné, on se parle. Et puis le jour où les relations se tendent entre les États...
Ça devient un lieu de crispation.
Ça devient un lieu de crispation. Notamment les barrages, notamment... Alors souvent aussi, les fleuves jouent un rôle de frontière... qui, du coup, alors, une frontière n'est jamais fermée, hein, il y a toujours des échanges, mais évidemment, quand la situation se crispe, on ferme la frontière, et du coup, vous allez voir se développer autour de ces fleuves aussi des mafias, des trafics illégaux, un ensemble de choses qui vont là encore contribuer à polluer ces fleuves.
Alors oui, la pollution, ça arrive même pour des fleuves qui ne circulent que sur un seul pays. Exemple, Citarum en Indonésie, qui a été tristement surnommé le fleuve le plus pollué du monde et où les poissons ont laissé place au plastique.
Avant, il y avait beaucoup de poissons et ça nous suffisait pour vivre. L'eau était propre. Maintenant, il n'y a plus de poissons du tout. La rivière, c'est devenu une poubelle.
Sans aucune protection, toute la journée, il plonge ses mains dans ce bouillon de pollution. Ces petites bulles qui apparaissent à la surface, c'est la putréfaction des ordures.
Avant, tout le monde nageait ici. Je me souviens en sauter de ce pont. Maintenant, plus personne ne nage à cause de la boue. Et puis des ordures, évidemment. Maintenant, je suis immunisé. Mais comment dire? Ma peau est très sèche et ça me gratte. Ça me fait des marques.
Alors l'Indonésie est bien décidée à nettoyer cette poubelle aquatique. Le gouvernement a même affirmé vouloir rendre son eau à nouveau potable. C'est possible de nettoyer un fleuve, Magali Regeza?
C'est long. C'est très long. Et puis ça va dépendre aussi des polluants et de la façon dont les polluants se sont déplacés. Il faut savoir que sous les fleuves, vous avez par exemple des nappes phréatiques et que la contamination de ces nappes, elle peut être extrêmement longue et extrêmement dangereuse. Donc là aussi, et puis il ne faut pas oublier que ces fleuves, ils se jettent dans la mer. Donc ce sont aussi des polluants qui vont aller vers la mer. Donc tout ça est assez compliqué. Juste pour revenir sur la source des pollutions, parce que je pense que c'est important, on a bien sûr les activités industrielles, on a aujourd'hui l'urbanisation qui fait que les systèmes d'assainissement ne sont pas en capacité d'absorber les eaux usées. Donc vous avez des pollutions chimiques, des pollutions organiques, évidemment les plastiques, et aucun fleuve n'est à l'abri. On sait, par exemple, rien que sur la France, vous avez le Saint-Laurent du Maroni qui est connu parce que c'est un lieu d'orpaillage illégal, donc avec des quantités de mercure. Enfin, quand on voit certaines images avec des endroits jaunes, en fait, qui sont là, on va trouver aussi des polluants dans tous les fleuves de France. Il y a quelques années, on avait eu un scandale sur les poissons qui changeaient de sexe dans la Seine à cause des rejets de pilules, en fait, des femmes qui prenaient, évidemment, et qui allaient dans le fleuve. On a eu le scandale des PCB dans le Rhône. Donc, on a aujourd'hui de nombreux cours d'eau. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut mesurer ces polluants. Et donc, on a, dans certains pays, en tout cas, on essaie de mettre en place des dispositifs. C'est très compliqué.
Ouais. Et on en est où, alors, en France, en métropole, comme ailleurs, hein,
alors,
vous parliez
de la
Guyane?
On se rend compte que dès qu'on a une action volontariste, en fait, on arrive quand même à avoir une amélioration des choses, notamment sur la question de la biodiversité, où on arrive Je pense à la Loire où il y a tout un, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées pour la réintroduction des saumons, par exemple. Maintenant, il est clair que c'est très compliqué parce que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut mettre autour de la table un certain nombre de personnes qui ont des intérêts divergents et pour lesquels le fleuve est à la fois une ressource, mais de fait, utiliser la ressource, c'est aussi la dégrader. Et donc, mettre d'accord tout ce monde-là, c'est très compliqué et ça demande du temps et ça demande une volonté politique importante.
Dans un instant, nous allons nous intéresser à un sujet sur lequel vous avez particulièrement travaillé, Magali Reghezza, les phénomènes de crues en ville et plus particulièrement à Paris.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Le long fleuve doux, c'est le fleuve où on envoie les fous. Tous ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir les fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout. Les yeux, il me rend flou. C'est fou. Je me
Fleuve doux, c'était Kerenan sur France Inter.
À Paris, la Seine a dépassé les 4,50 m de la côte d'alerte. Toutes précautions ont été prises pour éviter le désastre de 1910. Année terrible où l'on vit la Seine sur le parvis de Notre-Dame et les députés obligés de se rendre à la Chambre en bateau. Si la gare Saint-Lazare baignait dans l'eau, c'était bien pis du côté de la gare des Invalides. Plus question d'y prendre le train. Tout au plus aurait-on pu s'y promener en barque. Les stations de métro s'étaient transformées en piscines. Et l'esplanade des Invalides était un lac. Le Paris de 1910, c'était une espèce de Venise improvisée, sans gondole ni romance, où l'on quittait le bateau pour la passerelle de planche et où la vie devenait un tour de force.
la redoutée crue centennale de la Seine survenue à Paris en 1910. Alors, il y a plein d'avantages pour une ville à être traversée par un fleuve. On en a évoqué plusieurs avec vous, Magali Reghezza. Mais il y a un grand inconvénient, ce sont ces crues exceptionnelles. Là, c'est donc un exemple proche de nous, à Paris. Un exemple que vous avez particulièrement étudié. Est-ce que toutes les grandes villes traversées par un fleuve sont soumises à ce risque de crues exceptionnelles?
Un fleuve, la crue est un événement normal pour un fleuve. Alors, elle ne provoque pas toujours des inondations, c'est-à-dire un débordement du fleuve hors de son lit d'écoulement normal. Mais effectivement, toutes les grandes villes, et notamment la plupart des très grandes métropoles mondiales, ont été construites sur des fleuves. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des villes sont au bord des fleuves. Alors la question, c'est de savoir à quel bord. C'est-à-dire que au début, on se mettait un petit peu en hauteur et puis on est allé dans le lit d'inondation. Et donc évidemment, ce sont des risques majeurs. Alors toutes les crues ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir des crues qui vont être lentes, comme celle de la Seine. Vous allez avoir des crues qui vont être beaucoup plus rapides. Et puis vous allez avoir des crues qui vont être extrêmement meurtrières. Vous avez par exemple des crues qui vont se conjuguer avec des effets de marée. Donc tout ça peut créer des submersions bien plus importantes. Ce qui est très dangereux pour les villes, ce sont les ruptures de digues, puisque les villes sont en théorie protégées par des endiguements, mais évidemment quand la digue cède, vous avez une submersion brutale. Et donc aujourd'hui, on a effectivement des cours d'eau français sont très surveillés. On a connu des grandes crues, il n'y a pas que la Seine, on peut parler de la crue de la Loire de 1876 par exemple, la Garonne a connu des crues, le Rhin a connu des crues, y compris en 1910 avec des grandes inondations. Le Rhône aussi est connu pour ses crues. Donc tous les fleuves ont...
Quand on parle de crue centennale, ça ne veut pas dire qu'elle arrive régulièrement tous les 100 ans. Ça veut dire que chaque année, elle a une chance sur 100 de se produire. Mais on remet les probabilités à zéro
chaque année. C'est ça. Ça veut dire qu'elle a en moyenne une chance par siècle de se produire. Ça veut dire qu'on pourrait en avoir des plus grands, avec un débit plus important, ou des plus petites.
C'est-à-dire qu'il existe des crues millénales, par exemple?
Oui. En fait, millénale, c'est simplement une crue dont le débit aura une chance sur 1000 par an de se produire.
Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Paris en 1910, on y est davantage préparé, on a aménagé les bords de Seine pour que ça fasse moins de dégâts, ou le jour où ça arrivera, eh bien, ça fera les mêmes dégâts, même peut-être plus, maintenant que tout est électronique dans nos sociétés, on est peut-être plus vulnérable.
Alors, en fait, on a deux mouvements paradoxaux, c'est que d'un côté, on a réussi à endiguer, à essayer de maîtriser avec des digues, des barrages, un ensemble de choses, les fleuves, et puis de l'autre côté, on a créé des nouvelles vulnérabilités, notamment parce qu'on a enterré des réseaux sous nos pieds, c'est-à-dire là où la nappe phréatique du fleuve va circuler. On a aussi des pratiques aujourd'hui qui sont différentes de celles de 1910. En particulier, on est très dépendant à l'électricité, aux télécommunications, à l'assainissement, au transport, etc. Et donc aujourd'hui, les projections sur Paris, la crue de la Seine est considéré comme le risque en termes financiers, en termes de coûts, le plus important pour la France, y compris pour la France ultramarine.
C'est-à-dire que ça a été estimé?
Oui, ça a été estimé en 2014. Alors, on est entre 3 et 30 milliards d'euros de dommages immédiats. Et sur 5 ans, on serait à peu près à 3 points de PIB, c'est-à-dire de PIB, c'est-à-dire en gros 60 milliards. Pour faire simple, ça serait un événement à 100 milliards d'euros. Dans le cas, évidemment, le plus absolu... On espère que ça sera évidemment plus faible, et donc on s'y prépare. On s'y prépare, mais c'est très compliqué, sachant qu'en plus ces événements, ce risque, il évolue en permanence. D'une part parce que l'urbanisation change, parce que la démographie change, et pour les pays développés, la question du vieillissement des populations pose problème. Et puis parce que tout simplement, avec le changement climatique, on a aussi des grosses incertitudes sur l'avenir en fait de ces crues, sur la variabilité de ces crues. Et donc pour l'instant, les études sont là.
Alors on aura l'occasion d'y revenir certainement dans la dernière partie de cette émission, notamment avec les questions des auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent nous envoyer leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Je vous propose à présent, Magali Reghezza, un petit détour par les mares avec Hugo Struna. Bonjour Hugo.
Bonjour Daniel.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Toutes les semaines, vous nous plongerez dans la nature sonore qu'étudient les scientifiques du muséum. Et pour cette première chronique, immersion en eau trouble.
Alors je vous préviens tout de suite, ce n'est pas la Côte d'Azur. Nous sommes là au fond d'une petite mare d'eau douce située au cœur du Jardin des Plantes de Paris. L'enregistrement est signé Camille Desjonquières qui a consacré sa thèse de doctorat au son des milieux aquatiques et particulièrement de ces mares dont le concert intérieur est d'une formidable richesse et pourtant presque inconnu.
On dirait un cœur qui bat. Alors, c'est qui ce premier soliste?
Alors, nous sommes toujours dans la petite mare du Jardin des Plantes, en pleine nuit. Ce n'est pas un moteur qui essaye laborieusement de démarrer,
ah, vous
Daniel.
Vous êtes moins poétique. Moi, j'étais sur le cœur qui bat. Moi.
C'est une petite grenouille qui chante et sous l'eau. Selon Camille, il s'agit d'un discoglosse pin, une espèce strictement méditerranéenne. Tiens, dans le 5e arrondissement de Paris, bizarre, des individus ont tout simplement été introduits dans les années 1950. Depuis, une petite population s'est installée dans le Jardin des Plantes, la seule à cette latitude.
Alors qu'est-ce qu'on peut entendre dans une mare, hormis ces jolies grenouilles ?
Alors vous l'entendez, c'est un festival, on entend là beaucoup d'insectes aquatiques, parfois des mouvements et même des conversations de poissons et d'amphibiens. Et puis, plus étonnant...
Voilà. Qu'est-ce que c'est alors ?
C'est exactement la question que s'est posée Camille lors d'un enregistrement le long du Rhône. Alors qu'elle promenait dans l'eau, son hydrophone fixé au bout d'une perche, ce son étrange retentit sans s'arrêter. Elle sort son épuisette, sûrement une espèce d'insecte très bruyante, comme c'est souvent le cas. Elle relève, rien. Jusqu'à ce qu'elle aperçoive un petit chapelet de bulles qui remonte à la surface. Pas de doute, c'est bien une plante qui respire.
Ah oui, on dirait un petit grincement, mais alors c'est une plante qui chante sous l'eau ?
Oui, il y a de nombreuses espèces qui chantent, comme les mantes aquatiques par exemple. En réalité, la plupart des sons que l'on entend dans ces milieux sont dus aux échanges gazeux, respiration et photosynthèse pour les plantes, mais aussi ceux issus de la décomposition de la matière organique contenue dans les sédiments.
Bon, j'imagine que Camille Desjonquières n'est pas une mélomane, elle étudie ces sons dans le cadre de recherches scientifiques.
Oui, lors de sa thèse, Camille a notamment exploré un univers aquatique tout particulier, les bras morts du Rhône. Ce sont d'anciens méandres du fleuve, aujourd'hui séparés du lit principal et parfois reconnectés au moment des crues. Ah, écoutez là comme la vie bouillonne à l'intérieur de ces bras morts. On y entend là des plantes, des insectes, de la sédimentation, des échanges. Surtout, ce que Camille a réussi à démontrer, c'est que ces sons dépendent du degré de connexion au fleuve. Ainsi, chaque bras mort, selon qu'il est alimenté plusieurs fois par an, très peu ou même jamais, chaque bras va abriter une biodiversité qui lui est propre et donc chanter différemment. On l'entendait à l'instant, un bras mort, c'était un bras mort peu connecté, et en voici un régulièrement recouvert par le Rhône. Donc là, l'eau est un peu moins stagnante, il y a donc moins de végétation, moins de sédiments. C'est pour cela qu'on n'entend pas les échanges gazeux. Et si vous écoutez bien, vous pouvez néanmoins distinguer des punaises aquatiques en fond. C'est très léger.
Ah oui, c'est très léger, moi je les ai pas là, les punaises.
Et là,
ah oui.
Et voilà. Sans ces enregistrements sous-marins de Camille, on aurait eu beaucoup de mal à mesurer ces changements. L'acoustique est donc un indicateur assez performant de biodiversité des mares et autres milieux d'eau douce.
Sauf que ces concerts sont aujourd'hui menacés, évidemment, Hugo.
Oui, les bras morts, comme toutes les zones humides, sont aujourd'hui menacés. En cause, les barrages, canalisations qui assèchent tout, mais aussi les pollutions. Les chercheurs s'en rendent bien compte, les concerts s'appauvrissent, du moins s'homogénisent. Et cela, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Et parmi les chanteurs des profondeurs, il y en a un qui ne passe pas inaperçu.
Oui, je ne pouvais pas ne pas vous présenter.
Il faut monter le son hein, pour l'avoir.
Oui, il faut peut-être celui-là. Un peu monter le son, je ne sais pas si tout le monde l'entend. Voilà, Micronecta griola, une punaise de 3 mm de long enregistrée par Camille, toujours le long du Rhône. Cette bestiole est très connue car proportionnellement à sa taille, c'est l'animal le plus bruyant de la Terre. Ah oui. Elle crie plus fort que la baleine bleue, rendez-vous compte. Plus étrange encore, le mâle entonne cette parade nuptiale en frottant son pénis sur son abdomen. Voici donc le ténor des mares au sexe musicien qu'on peut parfois entendre de l'extérieur en marchant près d'une mare. Décidément, il s'en passe des choses là-dessous.
Oui, merci Hugo Struna et à la semaine prochaine Magali Reguedza. On devrait peut-être davantage écouter les fleuves.
Ce serait une bonne idée. Ouais. Ils vont pas très bien les fleuves, donc on a effectivement besoin de les protéger. On a aujourd'hui des initiatives différentes, notamment certains fleuves ont acquis une personnalité juridique qui permet donc aussi d'avoir de nouvelles formes de protection. Mais effectivement, cette question des fleuves, elle est extrêmement importante parce que ce qui était très bien dit aussi là dans ce qui vient d'être présenté, c'est que le temps des sociétés humaines n'est pas celui de la planète. Et donc, effectivement, ces fleuves, ils ont beaucoup varié de cours, de formes, de débits au fil des millénaires, des centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une accélération très brutale du fait des sociétés humaines qui met en péril des milieux. La résilience des écosystèmes, elle est extrêmement importante et elle peut se faire sans les hommes. Simplement, aujourd'hui, on se rend compte que ces fleuves représentent une telle ressource pour l'humanité, notamment pour certaines communautés locales qui vivent encore exclusivement du rapport aux fleuves, que la destruction de la ressource que représente le fleuve est un enjeu majeur pour les sociétés et pour les sociétés futures. Donc on voit là aussi comment en fait cette question environnementale, elle est globale, elle est systémique. Elle appelle vraiment de se mettre d'accord pour savoir ce qu'on va faire de ces fleuves qui deviennent aujourd'hui une ressource en danger.
Dans un instant, vous allez répondre, Magali Reghezza, aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. Vous êtes sur France Inter, le temps d'un bivouac. C'était Vampire Weekend, This Live sur France Inter, le temps d'un bivouac dont l'invité aujourd'hui est la géographe Magali Reghezza. Elle signe un article intitulé « Vivre avec le fleuve » dans le dernier numéro de la revue Relief. Il y a des questions d'auditeurs qui arrivent, et notamment Capta Cabana qui vous demande « La Loire est-il le dernier fleuve sauvage d'Europe ?»
Alors la Loire, c'est le dernier fleuve sauvage, effectivement, c'est comme ça qu'on l'appelle. En réalité, c'est justement un des fleuves qui a été le plus anciennement travaillé par des systèmes d'endiguement, par de déversoirs. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant quand on voit la marqueterie des paysages et la présence de l'occupation humaine. On voit en fait qu'il y a eu tout un lien quasi organique entre les populations ligériennes et le fleuve. Et on parlait du Mississippi. Le Mississippi, les endiguements du Mississippi ont été faits selon le modèle nigérien. Donc en fait, ça a aussi essaimé dans le monde. Et c'est vrai que cette Loire, on parle de sauvage parce qu'on voit les bancs de sable, parce qu'on voit la végétation. En réalité, c'est un fleuve qui est complètement travaillé et qui a fait l'objet justement de mesures, grâce en particulier au plan Loire Grandeur Nature, qui a permis justement de renaturer, de recontrôler. Donc on voit là que l'action humaine, elle n'est pas forcément négative.
Il existe encore des fleuves sauvages à la surface du globe où l'homme a mis son grain de sel, son grain de sable un peu
Disons
partout.
Disons qu'il y a des degrés d'artificialisation entre des fleuves qui ont été complètement chenalisés avec des berges minéralisées et puis l'Amazone, on n'est pas du tout dans le même niveau d'anthropisation. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que la Terre, c'est un système. Donc les actions humaines, elles ont des impacts, on le voit aujourd'hui, le changement climatique a des impacts sur les fleuves. Et il a quand même une part anthropique.
C'est d'ailleurs une question qui est arrivée de la part d'un auditeur. Quel genre d'impact pourrait avoir le changement climatique sur les fleuves de France et d'ailleurs?
Alors multiples. D'abord, on va avoir des changements de régime qui vont être de débit en fait, qui vont être liés à la variabilité des précipitations. Donc peut-être à certains endroits plus de précipitations, à d'autres moins. Donc ça va changer les régimes de crue et d'étiage. Un impact sur la biodiversité là aussi. Et puis il faut pas oublier que le fleuve est en communication avec la mer. Ce niveau de la mer, il a varié dans les périodes passées. Il a pu être plus bas, il a pu être plus haut. Aujourd'hui, la remontée du niveau marin perturbe ces relations entre la mer et le fleuve, notamment les remontées des fronts de salinité. On voit aussi que sur les deltas sont extrêmement menacés par le changement climatique. Les projections qu'on a sur la Camargue, par exemple, sont extrêmement inquiétantes. Donc en fait, le changement climatique...
Qu'est-ce qui pourrait arriver en Camargue alors, très concrètement?
Eh bien, la mer remonte et donc le delta disparaît. Et donc, on va avoir... Alors, en plus, les deltas sont menacés parce que comme ces fleuves sont aménagés, les apports sédimentaires, là aussi, ne sont plus les mêmes qu'avant. Et un delta, c'est quoi? C'est le produit de la rencontre entre, d'un côté, l'apport des fleuves et de l'autre, l'action de la mer. Si vous modifiez un tout petit peu un paramètre, vous changez complètement la dynamique de ces espaces.
Jérémy vous demande, avec les pollutions des fleuves, les écosystèmes se dégradent progressivement, mais qu'en est-il de la résilience des fleuves? Si on leur laisse un peu de liberté, est-ce qu'ils vont se porter mieux?
Oui. Bien sûr. Ce qui est assez fascinant, c'est quand on regarde la résilience des écosystèmes, généralement, elle est surprenante. Après, là encore, c'est une question de seuil. Quand vous avez détruit à des degrés quasi absolus des milieux, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Mais à partir du moment où on mène une action, quelle qu'elle soit, elle est déjà efficace et il faut déjà l'amener. C'est très important.
Aujourd'hui, on assiste à certains endroits à ce que l'on appelle une reconquête des fronts d'eau.
Oui, les waterfronts. En fait, c'est un mouvement qu'on a observé un peu partout dans les pays développés, notamment. C'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les sociétés ont eu un rapport très étroit avec le fleuve. On allait y laver son linge, on allait puiser l'eau potable. Et puis, à un moment donné, notamment dans les sociétés développées, ce rapport s'est rompu. Parce qu'on a installé dans les vallées fluviales des voies de communication, des industries, et donc on n'allait plus au fleuve. Et aujourd'hui, en fait, le fleuve a retrouvé son attractivité. Et donc, on réaménage ces berges de fleuve. Alors là aussi, ça pose problème parce qu'on va installer des populations dans des zones inondables. Donc souvent, en fait, ce sont aussi des formes originales d'aménagement, notamment sur d'anciennes friches industrielles, puisque l'industrie a eu beaucoup besoin de l'eau. Et donc, ces opérations d'aménagement, elles sont très étudiées par les géographes. Il y a beaucoup de thèses et d'articles extrêmement intéressants. Et on le retrouve aussi bien en Europe du Nord qu'en Europe du Sud, qu'aux États-Unis, il y en a partout, voire en Asie. Il y en a partout.
Merci Magali Areguedza. Je vous présente notre invité de la deuxième heure. Il s'est assis juste à côté de vous. Il s'appelle Alexandre Poussin. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir, Alexandre, en chair et en os, avec toute votre famille qui attend de l'autre côté de la vitre, mais qui va rentrer dans le studio pour la deuxième heure. Alors, les auditeurs assidus du Temps d'un Bivouac vous connaissent bien. Nous avons suivi de loin votre aventure depuis l'été 2014. Vous étiez parti faire le tour de Madagascar en charrette à Zébu avec votre femme Sonia et vos deux enfants, Ulysse et Philae. Et vous êtes enfin rentré après 4 ans et vous allez pouvoir nous raconter ce voyage. Rapidement, Alexandre, vous avez traversé des fleuves avec votre charrette à Zébu qui parfois est devenue radeau parce que à Madagascar, il y en a des fleuves.
Oui, il a fallu s'adapter. La charrette est devenue Transformers et on l'a fait flotter pour traverser ces grands fleuves sur lesquels il y avait un gros courant. Donc il faut se mettre en amont et on va en diagonale, tiré par des piroguiers et éventuellement on y a même rajouté une voile, figurez-vous. Donc les Malgaches apprécient énormément cette originalité. Voilà, quand on n'a pas le choix, quand il n'y a pas de pont, il n'y a plus de bac, il faut passer. Ouais. À Madagascar, il n'y a pas beaucoup d'anthropisation des fleuves, hein, ils sont tous très sauvages et très limoneux et c'est le témoin vraiment de l'érosion. Des hauts plateaux, des hautes terres et la pluie qui emporte toute la latérite et qui charge en permanence les eaux qui sont très rouges. Et dans la mer, ça fait des grands deltas qui sont rouges, les images satellites en témoignent. C'est comme ça, c'est un fait, on le constate. Et les fleuves restent sauvages à Madagascar.
Oui. Alors les fleuves restent sauvages, on va voir hein, pendant la deuxième heure que par contre les forêts sont en danger. Vous étiez parti, quand vous êtes parti, vous m'aviez dit 2 ans, 3 ans, finalement vous avez passé 4 ans pour faire le tour de Madagascar, hein, c'est 5000 kilomètres avec toute votre famille. Ça a été plus compliqué, plus difficile que prévu?
Oui, en fait, beaucoup plus compliqué que l'Afrique, parce que il y avait cette charrette, il y avait ces zébus. Si on avait été tout seul avec un petit sac à dos, ça aurait pris beaucoup moins de temps. Mais là, c'était du franchissement en permanence d'obstacles. Oui. Ça avait jamais été fait. Ouais. Donc c'était très difficile d'avoir une estimation du temps.
Ouais. Vous allez nous raconter ça dans la deuxième heure. On est impatients de faire connaissance avec toute la famille Poussin dans le temps d'un bivouac depuis le temps qu'on les suit à distance. Merci Magali Regueza d'être venue nous voir et de nous avoir emmené bivouaquer au fil des fleuves du monde. Et à tout de suite avec les 4 poussins.
Le Black Friday de l'été est de retour sur Dell.fr. Pour les pros et particuliers, sur Dell.fr, venez découvrir nos offres Black Friday sur une large sélection de moniteurs et PC avec processeur Intel Core. Faites vite, visitez dès maintenant Dell.fr et profitez des meilleures offres de l'année sur Dell.fr.
Et vous écoutez France Inter. Je vous rappelle que le temps d'un bivouac est podcastable. On ne change pas les bonnes habitudes. Vous allez sur franceinter.fr et vous pouvez télécharger les 2 heures d'émission.